Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Les artistes et l'histoire générale de l'Afrique, l'Afrique et ses diasporas. L'histoire générale de l'Afrique est depuis quelques années au cœur des préoccupations multiples, préoccupations des historiens évidemment qui s'occupent de travailler ce livre, de le mettre à jour et également de faire en sorte que les connaissances considérables accumulées pendant les années dans ces 8 volumes qui font au total donc près de 8000 pages et les documents annexes, de les mettre aux dispositions du public le plus large et surtout depuis quelques années, d'en faire des manuels qui seront distribués dans tout le continent africain, d'Alger jusqu'au Cap et des îles du Cap-Vert jusqu'aux îles de l'océan Indien, de sorte que les Africains du continent connaissent bien leur histoire, car pour faire des citoyens africains, il faut évidemment que cela repose sur la connaissance de ce qu'a été leur véritable histoire. Non pas l'histoire qu'on leur a racontée, mais l'histoire que les Africains ont faite et continuent de faire aujourd'hui. Dans ce travail sur l'histoire générale de l'Afrique, il est apparu très vite que on ne pouvait pas contenir l'Afrique aux frontières du continent africain, puisque la première mondialisation, si on peut utiliser ce mot, c'est une mondialisation au départ de l'Afrique. Ce sont ces premiers humains qui, par l'isthme de Suez ou par le détroit de Gibraltar, ont pénétré en Europe et en Asie, et par le détroit de Bering ont pénétré en Amérique, sur le continent américain. Et par la suite, il y a eu le drame, la tragédie qui a duré très 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 longtemps, probablement du 7e au 19e siècle, qui a été l'ensemble de ce qu'on appelle la traite des esclaves vers le Proche-Orient, vers l'Europe et évidemment vers le continent américain. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, et je pense que l'une des preuves du dynamisme des Africains, c'est qu'aujourd'hui, les Africains sont partout dans le monde. Beaucoup sont partis dans des contextes douloureux, d'autres sont partis par choix, et il ne faut pas réduire les Africains de la diaspora à ces figures misérables que l'on voit. Nous avons parmi eux de grands savants, nous avons de grands artistes, nous avons des créateurs, des écrivains, etc. Et à mesure que les générations passent, la diaspora se renouvelle. Et c'est justement de la diaspora africaine et de ses relations avec l'Afrique que nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Sami Tchak.
Bonjour.
Et bonjour Elgas.
Bonjour.
Alors Elgas, vous êtes le plus jeune des invités, donc je vais vous demander de vous présenter brièvement.
Alors oui, je m'appelle Elgas Soleiman Gassama, donc Elgas c'est mon pseudonyme pour ce premier livre que j'ai écrit, donc à présence africaine. Alors je suis doctorant en dernière année en sociologie à l'université de Caen. Je travaille sur le don en Afrique et la question de la dette aussi dans un registre plutôt maussien. Et par ailleurs, je suis journaliste, donc il m'est arrivé d'écrire pour plusieurs canards et pour plusieurs think tanks africains qu'il y a dans la diaspora pour rejoindre donc la thématique du jour. Voilà grosso modo ce que je fais. Donc ce livre-là que je fais porte sur les abus liés à la tradition et à la religion au Sénégal.
Et le livre s'appelle « Un dieu et des mœurs », livre qui a été publié par une grande maison d'édition de la diaspora africaine, en France et à travers le monde, bien sûr, présence africaine. Sami Tchak, oui. Vous aussi, vous écrivez beaucoup.
Oui, c'est vrai. Ça fait plus de décennies que je publie, donc ça fait quelques livres déjà. Je suis togolais. J'ai commencé à publier au Togo. Mon premier roman est sorti en 1988 au Togo. Ensuite, en vivant en France, j'ai découvert peut-être ce que je n'aurais pas découvert si j'étais resté au Togo, c'est-à-dire le rapport entre notre continent et ce qu'il a pu offrir au monde, que ce soit sous la contrainte ou sous la douleur, ce qu'il a offert au monde, c'est-à-dire l'implantation d'une partie de sa mémoire, de ses cultures sur le continent américain. C'est ce qui m'a vraiment intéressé, qui m'a permis de situer beaucoup de mes textes à Cuba, au Mexique, en Colombie. Et c'est peut-être un hasard, mais mon intérêt pour l'Amérique, le continent américain, est parti de l'UNESCO. Quand mon aîné Doudou Dien m'invitait dans ses bureaux pour que nous discutions du projet qu'il pilotait, la route de l'esclave.
Alors justement, vous vouliez parler de la diaspora vue de l'Afrique. Comment ça se présente? Alors je voudrais dire que le pays d'où vous venez, donc toute cette côte de Guinée, hélas a vu partir des gens, mais a entretenu de très très longue date des relations très intenses avec le continent américain, en particulier l'Amérique du Sud.
Mais c'est même ça qui m'a surpris, c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire mon intérêt quand j'étais au Togo pour cette partie du monde était relativement faible, alors que j'étais plutôt mieux placé pour le cultiver. Parce que non seulement nous avons eu des départs à partir de cette partie, c'est ce coin de l'Afrique, le golfe de Guinée, mais surtout nous avons eu des acteurs de premier plan qui sont des anciens esclaves revenus du Brésil. Le pays, mon pays, le Togo, a eu comme dirigeant le fils d'un ancien esclave revenu du Brésil, Sylvanus Olympio, qui a été le père de l'indépendance du Togo, est brésilien d'origine par son père. Et donc, ici, quand je redécouvre ce lien-là, je me suis dit, en réalité, même en termes d'identité, il y a l'identité, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose alors que ça a peut-être du sens. Il y a de notre part une démarche à faire. C'est peut-être aller nous comprendre mieux au cœur de ces sociétés qui ont su se conserver, construire quelque chose dans la contrainte et directement avec l'autre. C'est ce lien-là qui m'intéresse. Comment des personnes mises en minorité sur tous les plans ont survécu au cours des siècles en conservant quelque chose qui finit par faire sens au sein de la société globale où ils sont en général dominés.
Samy, vous avez amené plusieurs morceaux de musique, notamment je voudrais qu'on écoute ce que vous amenez de la Colombie, parce qu'on parle beaucoup de Brésil, c'est vrai, il faut en parler, beaucoup de la Caraïbe, mais beaucoup ne savent pas que en Colombie, la présence de l'Afrique est très 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 importante. Samy, tu as qu'un commentaire sur ce morceau qu'on vient d'écouter?
Toto La Momposina est peut-être celle qui m'a le plus rappelé les rythmes que je connaissais chez moi au Togo. Le morceau que j'ai choisi célèbre les tambours. On verra quand même si on écoute tout le morceau et non seulement l'extrait, on verra quand même qu'à un moment, ce qui est célébré au-delà des paroles et des voix, c'est le rythme. Et ce rythme-là, on le retrouve un peu partout dans les diasporas africaines d'Amérique et surtout le continent africain.
Elgas, à vous, donc jeune chercheur, jeune romancier, je dirais déjà à succès, parce que Présence Africaine est une maison dont nous connaissons la sévérité depuis le maître Alioune Diop, publié là-bas. C'est bien sûr important. Alors, ce premier roman, Un Dieu et des mœurs, porte sur justement des problèmes de la diaspora.
Oui, donc c'est ça, c'est un regard d'un jeune qui vit en France donc depuis 10 ans et qui, à l'occasion d'un séjour au Sénégal, redécouvre des réalités peu ragoûtantes et puis essaie d'identifier quelles peuvent en être les raisons ou les causes profondes. Donc j'ai pu identifier donc dans cette démarche deux choses qui me paraissent dans leur pratique actuelle et dans les abus et les dérives qu'ils produisent deux problèmes, c'est-à-dire la religion et la tradition. Et donc forcément, c'est des sujets très très délicats. Il y a une sorte de pudeur et puis il y a aussi des vertus nationales qui font qu'on ne peut pas aborder ces choses-là de manière très très sereine. Et ce qui n'arrange pas mon cas, ce qui fait donc d'ailleurs l'essentiel des reproches, c'est que on reproche à mon regard d'être un tout petit peu en surplomb, de venir de la diaspora et de ne pas éprouver les réalités locales. Alors que vous avez dit roman, je me permettrai juste de rectifier, c'est pas tout à fait un roman, c'est un carnet de voyage, c'est un récit qui est nourri par des faits qui ont existé, que j'ai vécu, donc je suis dans le témoignage et dans l'analyse. Donc moi je pense que la diaspora, comme le disait Césaire dans le discours, c'est un centre très très, c'est un centre de redistribution de l'énergie intellectuelle en quelque sorte, mais c'est pas le seul centre. Donc ce qui me pose souvent un problème, c'est que dans la diaspora actuellement, dans le regard qu'on pose sur l'Afrique, on a tendance à substituer l'agenda de la diaspora à l'agenda local, alors que les deux ne se confondent pas nécessairement. Il y a des réalités qui sont endogènes, qui sont intrinsèques à l'Afrique, et puis ce que l'Afrique a pu donner dans la diaspora est un tout petit peu différente, même si on peut trouver des communautés dans les marges ou même dans quelques centralités. Donc voilà, c'est très très important. Alors moi, le regard que je porte est un regard vraiment local. Hein. C'est un vacancier ou quelqu'un qui rentre chez lui, qui découvre des choses et dont l'espoir est douché, dont les craintes sont réelles et qui les restitue. Donc le centre d'émission n'est pas si important que ça, même si la surface de réception et dans la diaspora, ça c'est un biais qu'on n'arrive pas malheureusement à corriger, mais j'espère que ça va changer un tout petit peu.
Mais c'est les deux questions que vous abordez sont des questions évidemment très sensibles, mais en même temps, vous avez raison de les aborder. Alors, voyons par exemple la question de la religion. Donc, nous parlons du Sénégal, hein, où l'islam est de très très loin la religion dominante.
Oui. Alors oui, le Sénégal est un pays donc, comme le disent les statistiques, à 95% musulman. Alors, pendant très très longtemps, c'était un islam dit tolérant, un islam inféodé de soufisme avec des confréries, donc il y en a 3 majoritairement, dont la plus importante, le mouridisme. Et au gré des développements récents, on a pu voir qu'il y avait des niches éventuellement, mais vraiment locales, qui sont sujets à beaucoup de craintes. Donc, on se dit, est-ce que c'est un effet de contagion de ce qui s'est passé au Mali avec le contexte mondial, ou est-ce que le Sénégal couvait à son intérieur, dans son histoire, un potentiel aussi djihadiste? Donc, c'est la problématique. Alors, moi, ma réflexion, elle ne se situe pas forcément dans le djihadisme wahhabite. Moi, il y a un islam de tous les jours, un islam infiniment tolérant. La formulation pour la restituer dans mon livre, c'est le fanatisme mou dont je parle. Et si on ne fait pas gaffe, si on ne prend pas ses gardes, je pense que ça peut diffuser l'idée qu'il n'y a pas de suprématie en dehors de la religion. Et à partir du moment où les peuples sont acquis à cette certitude-là, la première couche de l'endoctrinement et du fanatisme violent est déjà faite. Donc voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire, un travail de prévention, en montrant que ce qu'on appelle islam traditionnel n'est pas nécessairement un rempart contre le djihadisme, Des fois, d'ailleurs, ils peuvent se compléter assez curieusement. On l'a vu d'ailleurs au Nigeria, où il y avait du soufisme, au Mali, où il y avait du sifisme, et pourtant, les digues ont rompu. Donc,
Et alors, vous, c'est l'islam que vous considérez comme tradition, ou est-ce qu'il y a aussi des traditions, disons, à côté de la religion, que vous abordez aussi, disons, dans la vie de tous les jours, ou dans les rapports entre les sexes, les rapports entre les âges, etc.
C'est tout à fait ça. Donc, moi, je pense que la religion a su convertir la tradition. Donc, voilà, c'est une tutelle un peu bicéphale où la religion est en tête. La seule chose que j'aborde, mais vraiment, ce sont les abus des deux. Alors, la tradition aussi, je parle du lévira, donc le fait d'hériter du frère du défunt, par exemple, dans un couple. Je parle des mutilations génitales. Je parle aussi de l'infériorisation des femmes. Donc voilà, toutes choses qui sont restées dans les sociétés très très patriarcales et qui, à mon sens, sont problématiques si on veut l'éclosion et l'épanouissement des minorités. Donc voilà, donc il n'y a pas que la religion, il y a aussi les questions traditionnelles que j'aborde avec une envie de susciter, si c'est possible, donc un débat assez franc et assez cru sur ces questions, parce que ça me paraît être essentiel et décisif.
Alors, on ne va pas parler de politique, parce que c'est autre chose, mais parlons-en autrement. Est-ce que, tel que vous voyez les choses, on peut imaginer que dans le Sénégal de demain, on est un catholique, un chrétien, comme c'était le cas avec Senghor à la tête de l'État, ou un laïc simplement? C'est envisageable ou non? Parce que on a l'impression que la religion et ses rapports traditionnels envahissent tous les domaines et que visiblement quand on n'est pas ceci, ben on ne peut pas être cela.
Oui. Alors cette suprématie, ce tout religieux comme je l'appelle, c'est vrai. Vous faites mention de ça et vous avez raison. Alors j'ai envie de faire crédit à Macky Sall, voilà, en pensant que c'est un laïc. Voilà, jusqu'à la preuve du contraire. Alors, est-ce qu'on aura un exemple de Senghor plus tard au Sénégal? Au rythme où vont les choses, je suis très très pessimiste sur cette possibilité-là. Alors, on chante beaucoup le dialogue islamo-chrétien au Sénégal. On n'est pas à l'abri, en fait, d'une petite faille géopolitique, d'une crise économique, qui sont de nature à susciter les tensions et exacerber les querelles qu'on en tait pour l'instant. Donc voilà. Mais je pense que si on fait un travail de prévention, un travail de promotion de la laïcité, ça peut être très, très important.
Voilà donc nos artistes au secours de l'histoire générale avec la complexité. On se rend compte que l'histoire de l'Afrique, c'est quelque chose d'énorme. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le dedans, il y a le dehors, il y a les vieux, il y a les jeunes. Et au fond, c'est un continent très, très vivant.
C'est un continent vivant et d'autant plus vivant que, d'une certaine manière, il a conquis le monde même à travers ses tragédies. Ouais. C'est quand même, quand on est sur le continent américain surtout, on se rend compte que c'est par la traite des Noirs que l'Afrique a contribué à la conquête de l'Amérique. Dans des pays comme la Colombie, 11 millions de Noirs sur les 44 millions d'habitants, dont une minorité de Blancs et beaucoup de Métis, au Brésil ou dans beaucoup de... C'est-à-dire, on est quand même dans une situation où la dynamique, l'évolution humaine a transformé une tragédie initiale en conquête, puisque dans presque tous ces pays-là, ceux qui deviennent minoritaires, ce sont les autochtones. En Colombie, ils ne sont plus que 800 000 habitants, d'une manière ou d'une autre, même si globalement leur situation n'est pas la plus enviable aujourd'hui, qu'ils sont les dominés, il y a quand même une dynamique humaine qui peut s'étendre sur des siècles, hein, qui fait que ce continent-là, d'où sont partis tous les humains, pourrait devenir aussi celui qui offrirait en termes de vie, de culture et tout, ce que l'humanité pourrait devenir quand même plus tard.
Voilà, on vous l'avait bien dit, les artistes, romanciers, écrivains sont évidemment les meilleurs promoteurs de l'histoire générale de l'Afrique, comme Samy Tchak et Elgas viennent de nous le montrer. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.